Vous connaissez peut-être tous cette blague, mais pour ceux qui peut-être ne la connaissent pas, un homme mordu par un chien enragé est allé voir son médecin quelques jours après. Il a expliqué ce qui s'était passé et le médecin lui a dit qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il allait mourir. Alors cet homme s'est mis tout de suite a pris une feuille, s'est mis tout de suite à écrire. Et le médecin lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous écrivez? C'est votre testament, c'est bien si vous écrivez votre testament. Et l'homme répond, non, ce n'est pas mon testament, c'est la liste des personnes que je vais mordre avant de mourir. Dans le métro à Paris, une dame bouscule par hasard un homme pressé et lui demande de poliment pardon. L'homme se retourne et répond « Aujourd'hui, on ne pardonne plus, on tue. » Voilà. « Aujourd'hui, on ne pardonne plus, on tue. » Et dans l'Église, que faisons-nous des offenses des frères, des uns et des autres, des frères et des sœurs? Que faisons-nous de nos offenses mutuelles? Je vous invite à lire un passage de l'Écriture dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21 jusqu'au verset 34. Nous lisons ceci. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois ?»« Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui en amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin de rembourser ainsi la dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit « Prends patience envers moi et je te payerai tout !» Le maître en eut pitié, il annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds, le supplia en ces termes « Prends patience envers moi, je te payerai !» Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Frères et sœurs, il nous arrive souvent de traiter des sujets plus ou moins abstraits qui nous passent souvent au-dessus de la tête. Mais le parcours bâtir du solide que nous sommes en train de faire déjà depuis quelques mois au sein de notre Église nous permet de réfléchir sur des sujets qui font partie de notre vie de chaque jour, de notre quotidien, des sujets très terre à terre. Dimanche dernier, nous avons vu ce que le Seigneur nous demande vis-à-vis de nos ennemis. Les aimer, les bénir, prier pour eux et leur faire du bien. Certains d'entre nous affirment ne pas avoir d'ennemis, en tout cas comme ceux mentionnés dans les illustrations dimanche dernier. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous vivons dans un pays formidable. Notre Église est formidable. Ceci dit, au niveau professionnel, on peut très facilement faire face à des ennemis qui veulent vous abattre, qui sont capables de tout pour y arriver. Il y a des loups dans le monde de l'entreprise, et je pense que certains d'entre nous ont déjà fait cette expérience. Au niveau familial, combien de fois on a vu le mari et l'épouse devenir ennemis l'un pour l'autre ? Ennemis l'un pour l'autre, passer de l'amour à la haine, parfois même dans nos églises, chez des chrétiens. Combien de fois on a aussi vu, hélas, dans nos églises, n'est-ce pas, des chrétiens pourraient dire avoir un comportement de fauve vis-à-vis de leurs frères et sœurs. Si nous voulons être honnêtes, nous ne pouvons pas nier que nous offensons souvent les autres et que nous sommes souvent offensés par les autres. Les deux, n'est-ce pas? En tout cas, à tort ou à raison, nous nous sentons souvent offensés par des paroles ou par des attitudes, par des gestes de telle ou telle personne. Certes, il y a parfois des personnes avec une susceptibilité à fleur de peau ou avec un amour propre trop élevé, n'est-ce pas, qui s'offusquent ou se sentent blessées, parfois pour des choses insignifiantes. Servez aussi que dans des moments de fatigue ou d'énervement, et souvent les deux vont ensemble, n'est-ce pas, nous sommes plus sensibles et nous réagissons à des choses qui n'ont aucune valeur. C'est vrai également qu'il y a parfois, permettez-moi de le dire, parfois des casse-pieds partout, n'est-ce pas, qui nous pourrissent la vie. Dans le monde de l'entreprise, alors c'est facile de trouver des personnes comme ça. Il y a des gens qui se prennent aussi pour le nombril du monde, d'autres qui s'érigent en directeur de conscience des autres. Et malheur à vous si vous ne pensez pas comme eux et si vous ne faites pas comme eux. Comme disait François de Sales, partout où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Partout où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Partout où il y a des êtres humains ensemble, il y aura forcément des accros, des malentendus, des conflits et parfois même des blessures. Et nos églises aujourd'hui sont des lieux où se retrouvent des personnes différentes les unes des autres, d'origine culturelle, sociale et même spirituelle variée. Ce qui peut bien sûr accentuer, n'est-ce pas, cette forte propension aux incompréhensions, aux conflits. Or, une chose est sûre, on ne peut pas vivre heureux sans pardon. On ne peut pas vivre heureux sans pardon. Sans pardon, les relations humaines que l'on veut épanouies, que l'on veut satisfaisantes, saines, heureuses, sont impossibles. Si le conflit semble être naturel et inévitable, le manque de pardon ne l'est pas. Le manque de pardon ne l'est pas, en tout cas pas du point de vue biblique. Le manque de pardon est un véritable poison qui s'infiltre un peu partout, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos églises. C'est un cancer aux conséquences souvent terribles, néfastes pour nous tous. D'où l'obligation que nous donne la Bible d'exercer le pardon tout le temps et de le pratiquer de manière réciproque entre nous. Et je dis bien l'obligation, parce que c'est ce que je retire aujourd'hui de ma méditation de la parole de Dieu. Obligation, car selon la parole de Dieu, le pardon n'est pas une option, c'est un commandement du Seigneur. On raconte l'histoire de ce père en Espagne qui avait des relations de plus en plus tendues avec son fils adolescent. Révolté, ce dernier est parti un jour sans rien dire, il a pris la fuite, il est sorti de la maison sans dire où il allait, sans laisser d'adresse. Désemparé, son père a commencé à le chercher partout, dans plusieurs villes, dans les villages aux alentours. Et il n'a pas trouvé son fils. En désespoir de cause, il plaça une annonce dans un journal un portant de la ville de Madrid qui disait ceci: « Cher Paco, viens me retrouver en face de l'hôtel de ville à midi. Tu es entièrement pardonné. Je t'aime, ton père. » Vous savez ce qui s'est passé le jour suivant? Il y a eu 800 jeunes s'appelant Paco qui sont devenus devant, se présenter devant la ville, tous à la recherche du pardon de leur père. Un cœur qui refuse de pardonner est une véritable tragédie. Une véritable tragédie. Hélas, nous vivons dans des pays du non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout cela m'est égal. Nous avons été bercés, n'est-ce pas, au son de cette musique tout au long de ces années, n'est-ce pas? La musique est belle, très belle, mais on sait que c'est impossible, impossible de ne pas être touché, surtout par le mal qu'on nous fait. C'est peut-être facile à chanter, mais la réalité est tout autre. Ceci dit, à force d'entendre ces paroles, on risque de ressembler à ce qu'on chante, n'est-ce pas? On risque qu'on finit par considérer comme une faiblesse le fait de regretter d'avoir fait telle ou telle chose, ou de dire telle ou telle chose, alors qu'on le sait bien, cela arrive à tout le monde, à tout le monde. Et donc, on s'interdit souvent de demander pardon. On s'interdit. Un signe de faiblesse. Signe de faiblesse. Et c'est ainsi qu'on est capable de passer toute sa vie en traînant les vieilles casseroles du passé, n'est-ce pas, qu'on n'a pas été capable de résoudre une fois pour toutes. Et c'est toutes ces casseroles qui empoisonnent notre vie. Or, la parole de Dieu nous présente le pardon comme un cadeau. Comme un cadeau. Un cadeau pour soi-même et pour les autres, une puissance comme une puissance de libération, de bonheur. Il agit, tout à l'heure je parlais du manque de pardon comme du poison, n'est-ce pas? On pourrait dire que le pardon agit comme un sérum antivenimeux. Ceux qui ont, en Afrique on a souvent utilisé ce sérum parce qu'on était piqué par des serpents, par des scorpions, etc. On sait quel est l'effet de ce sérum. C'est de combattre le poison, n'est-ce pas? Combattre le poison, ce venin terrible qui est, on pourrait dire, l'amertume, la rancune, la vengeance, le ressentiment et d'autres choses, n'est-ce pas, qui nous conduisent souvent à des catastrophes. C'est d'ailleurs pour cela que le pardon est un thème qui est bien présent dans toute la Bible, du début jusqu'à la fin, partout, partout. Jésus ainsi que les apôtres insistent beaucoup là-dessus, non seulement dans le sermon sur la montagne qu'on est en train d'étudier, mais dans de nombreux autres passages de la Bible. Cette parabole en fait partie. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire au travers de cette parabole sur le pardon? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ce passage est probablement le passage le plus clair de la Bible sur cette question du pardon. Il nous donne quelques clés fondamentaux pour la compréhension de ce type de pardon qu'il attend de ses enfants, c'est-à-dire un pardon sans limite, un pardon sans limite. Jetons un coup d'œil à la parabole et à son contexte. Tout a commencé suite à une question de Pierre. « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Il paraît que les rabbins à l'époque recommandaient de ne pas pardonner plus de 3 fois. 3 fois. Certains aujourd'hui, certains chrétiens peut-être aujourd'hui disent la joue droite, puis la joue gauche, n'est-ce pas? Et ensuite, je frappe. Hein? La joue gauche, la joue droite, c'est bon, c'est ce que la Bible dit, puis je frappe. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il pose cette question, il semble faire preuve de générosité en proposant 7. Les rabbins disaient 3, alors 7, c'est formidable. Et il s'attendait sans doute à recevoir les félicitations de son maître. Mais c'est formidable, Pierre. Or, Jésus donne une réponse à laquelle il ne s'attendait pas. Jésus dit, non, je ne dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Autrement dit, pardonne toujours de façon illimitée et sans compter, sans compter. C'est ce pardon-là, donné de façon illimitée, que Jésus évoque ici dans cette parabole, où on voit tout de suite qu'il y a trois grandes scènes. Dans la première scène, il est question d'un roi qui décide de remettre à un serviteur une dette. Vous savez que pour désigner l'offense envers le prochain, le Nouveau Testament utilise souvent le mot, le symbolisme de la dette qu'il faut payer, qu'il faut régler. Et le roi décide de remettre à son serviteur une dette d'un montant de 10 000 talents, selon les vieilles traductions, un peu plus littérales, 10 000 talents, c'est-à-dire une dette immense. Un talent valait à peu près 6 000 deniers, ce qui veut dire que cet homme avait une dette de 60 millions de pièces d'argent de l'époque. Ça ne veut peut-être rien dire aujourd'hui. Pour établir un ordre de grandeur, on sait, grâce à l'historien Flavius Joseph, que les impôts perçus par Rome sur les 5 régions de la Judée, de la Samarie, de l'Idumée, de la Galilée et de la Pérée, à l'époque, s'élevaient à 800 talents. 800 talents. Or, cet homme devait 10 000 talents. 10 000. Un commentateur biblique estime cette somme au salaire d'un homme pour 3 millions de journées de travail. Sachant qu'un homme vit environ combien de jours? Autour de 30 000 jours, si on fait les calculs. Hein? 30 000 jours. On comprend tout de suite que la somme due par cet homme est impossible à payer. Elle est immense, elle est astronomique. Vraiment impossible à payer. Il ne peut pas la payer. Un commentateur biblique a essayé de faire des calculs et il a dit que cette dette correspond à 1,5 milliard de dollars. Hein? 1,5 à l'époque. Bon. Comme il n'avait de quoi payer, le roi a pris une décision qu'on prenait d'habitude à l'époque. Vendre son esclave, vendre cet homme, lui, toute sa famille, ses biens. Peut-être pas pour récupérer l'argent, parce que c'était impossible, mais au moins pour que justice soit rendue. Cela se faisait à l'époque, c'était légal, c'était tout à fait une mesure de justice qu'on pratiquait. Mais dans la parabole, ce détail est plutôt de l'ordre de l'ironie, parce que le roi savait bien que c'était impossible de récupérer le montant de cette dette. Un autre détail ironique, c'est que le serviteur fait appel à la patience de son maître. Il se jeta aux pieds du roi, se prosterna devant lui, supplia « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Comme quoi, on vit parfois dans l'illusion, n'est-ce pas, de pouvoir faire beaucoup de choses alors qu'on sait bien qu'on est incapable de le faire. C'était impossible et le roi le savait bien. Et là, il y a un retournement de situation inattendu par un geste de compassion immense, le roi remet la totalité de la dette à son serviteur. Il lui pardonne tout. Effacé, c'est fini, c'est pardonné. Eh bien, ça peut coûter, n'est-ce pas, de pardonner. Hein, c'est le cas de le dire. Hein. Ça peut coûter cher de pardonner. Et là, on se pose tout de suite une question, mais qui est ce roi? Qui est ce roi? Et à quoi correspond cette dette effacée? La deuxième scène est tout aussi inattendue que la première. À peine sorti de l'audience, ce serviteur rencontre un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent, 100 deniers, qui représentaient 100 fois le salaire journalier d'un ouvrier. Donc c'était rien du tout. C'était une somme d'argent qu'il pouvait porter dans sa poche. Selon l'autre calculateur, 2 500 dollars. Somme insignifiante par rapport à 1,5 milliard de dollars qu'il devait au roi. Le contraste est flagrant, est énorme. D'un côté, une dette colossale, impossible à payer, et de l'autre, une toute petite dette facilement remboursable. Et pourtant, malgré le fait d'avoir obtenu la miséricorde du roi vis-à-vis de sa dette, malgré la même réaction, malgré le même plaidoyer qu'il a eu à faire devant le roi, qu'est-ce que cet homme a fait? dès qu'il a trouvé son confrère dans la rue, qui lui devait cette petite somme, il l'accroche, dit le texte. Il le saisit à la gorge en l'exigeant de payer ce qu'il devait. Terrible, n'est-ce pas? Il montre par son geste et son attitude non seulement qu'il était prêt à la violence, à étrangler son compagnon, à lui faire du mal, à se venger, mais aussi et surtout qu'il n'avait vraiment pas saisi la grâce du roi, la grâce dont il avait fait l'objet de la part du roi. Et donc il refuse de pardonner à l'autre alors que lui-même, il vient d'être pardonné. Il veut le contraire du pardon. Il veut la vengeance. Il veut la punition. Au grand étonnement de tout le monde, malgré les supplications de son compagnon, cet homme se montre intransigeant, implacable, inflexible, incapable d'exercer un minimum de miséricorde vis-à-vis de son compagnon. Lui qui a bénéficié de l'immensité de la grâce du roi n'est pas capable d'exercer un petit peu de miséricorde vis-à-vis de son compagnon. Et il jette son compagnon en prison en attendant qu'il paye sa dette. L'attitude de cet homme rappelle ce que Jésus a dit, ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne à propos de la paille et de la poutre, n'est-ce pas? La paille et la poutre. Cet homme a vite oublié que lui aussi il était coupable et qu'il venait d'être pardonné. Il a vite oublié qu'il avait commis une faute grave vis-à-vis du roi, beaucoup plus grave que celle de son compagnon. Il voit la paille dans l'œil de son compagnon et il ne voit pas la poutre qui est dans le sien. Cette énorme disproportion des deux dettes et le manque total de générosité de cet homme met en lumière la dureté de son cœur, met en lumière son avarice, son manque de reconnaissance, son ingratitude vis-à-vis du roi. Comment a-t-il pu revendiquer le respect de son droit avec tant de hargne, de méchanceté, de violence, alors que le roi avait renoncé au sien avec tant de bonté et de miséricorde? L'action méchante du serviteur est arrivée aux oreilles du roi, car les autres serviteurs ont vu la scène. Ils ont été choqués, révoltés, écœurés par ce qu'ils venaient de voir. Ils sont allés donc rapporter au roi ce qui s'était passé. Et là, nous arrivons à la troisième scène de cette parabole, la comparution à nouveau de ce serviteur devant le roi. Le jugement sévère qui a été prononcé à son encontre et les conséquences qu'il a dû subir à cause de son attitude mauvaise et de son manque de miséricorde. Le roi lui dit, tu es vraiment odieux. Tout ce que tu devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau, nous dit la parabole. Quelles sont les leçons à retirer de cette histoire? Derrière le roi de cette parabole se profile Dieu lui-même, le roi de l'univers, avec ses exigences absolues, certes, mais aussi avec sa grande miséricorde vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de chacun de nous. Dieu nous fait bénéficier de sa grâce, malgré notre état de pécheur éloigné de lui. L'apôtre Paul, et dans beaucoup d'autres textes, il nous est dit ce que Dieu a fait vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre péché. Par exemple, dans la lettre aux Romains, chapitre 5, il nous a dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Et notez bien cette phrase, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Cela veut dire que lorsque Dieu nous a manifesté son amour, sa bonté, sa miséricorde, nous étions ses ennemis. Nous étions ses ennemis, nous étions dans un état de révolte contre Dieu. Et malgré cela, c'est lui qui est venu parmi nous. C'est lui qui est venu parmi nous, pécheur perdu, éloigné de lui, n'est-ce pas? Et il est venu pour nous pardonner, pour nous dire « Je te pardonne ». Il est venu pour nous sauver de sa colère, la colère divine contre le péché. La somme effarante, effacée par le roi, met en relief deux choses, la gravité de nos péchés et la générosité illimitée du pardon divin. La gravité de nos péchés et la générosité illimitée du pardon divin. Notre dette à chacun de nous vis-à-vis de Dieu est énorme, mais la grâce de Dieu est plus grande encore. La grâce de Dieu est plus grande encore. Dieu est le Dieu de grâce. Dieu est le Dieu des miséricordes, nous dit la Bible. Dans Néhémie, nous lisons, Dieu est le Dieu des pardons. Dieu est le Dieu des pardons. Le pardon de Dieu est donc le modèle et la référence de tout ce qu'on peut appeler pardon. C'est ce modèle-là que nous devons suivre. Et la principale caractéristique de ce pardon, c'est la grâce. C'est la grâce. Dieu qui a tout fait pour nous réconcilier avec lui. Rien ne l'obligeait de nous pardonner, n'est-ce pas? Rien, absolument rien. Mais il l'a fait et son pardon est offert à tous. En proclamant son nom à Moïse et au peuple d'Israël, et en dévoilant donc son caractère, dans Exode chapitre 34, à partir du verset 5, Dieu indiquait qu'il pardonne plus volontiers qu'il ne condamne, car bien plus nombreuses sont les générations visées par sa bienveillance que celles touchées par sa colère. Derrière le débiteur, il y a chacun de nous. Il y a le pécheur, vous et moi, chacun de nous, et l'impossibilité qui est la nôtre de payer notre dette vis-à-vis de Dieu, malgré parfois nos illusions, comme cet homme de la parabole, n'est-ce pas, qui disait « Je te payerai tout, je te payerai tout, aie patience envers moi ». Le pécheur, le débiteur donc, ne peut vivre que du pardon de Dieu parce qu'il ne peut pas payer sa dette. Le serviteur impitoyable est le contre-exemple. L'exemple à ne pas suivre, n'est-ce pas? L'exemple à ne pas suivre. Bref, cette parabole nous appelle à imiter Dieu. Nous appelle à imiter Dieu dans nos relations les uns avec les autres. Et à imiter Dieu surtout pour trois raisons essentielles, pour résumer. Parce que Dieu est le Dieu des pardons. Parce que Dieu aime pardonner. Il pardonne parce que Dieu nous a pardonnés. Et aussi, nous dit la parabole, pour qu'il nous pardonne. Aussi pour qu'il nous pardonne. Parce que Dieu nous pardonne, parce qu'il nous a pardonnés et pour qu'il nous pardonne. C'est dans ces trois raisons que nous devons puiser notre motivation à pardonner aux autres les offenses qu'ils commettent contre nous. Nous voulons ressembler à notre Père Céleste qui aime pardonner à son Fils Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui a donné l'exemple sur la croix, l'exemple de pardon suprême. Refuser de pardonner, c'est refuser d'imiter Dieu. C'est renoncer à faire ce que Dieu a fait pour nous. C'est vouloir peut-être être plus juste que lui. C'est se mettre au-dessus de Dieu. D'autant plus que le pardon que nous devons accorder aux autres n'est que peu de choses. Que peu de choses comparées à l'immensité de la grâce divine à notre égard. Dans l'ensemble de notre vie, nous n'aurons pas pardonné aux autres le centième de toutes les fautes que Dieu nous a pardonnées. C'est pour cela que la parole de Dieu nous exhorte dans plusieurs versets comme celui-ci, « Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Montrez-vous bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. S'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, etc., etc. Ils sont nombreux ces versets qui nous exhortent à pardonner. C'est aussi une question de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. Le pardon de Dieu à notre égard, voilà ce qui doit motiver le nôtre à l'égard des autres. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi ? La réponse est oui, bien évidemment, oui. Le mot final de Jésus ne laisse pas de doute sur le sérieux de la situation qui est placée devant nous. Il dit « Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Alors ce verset attire tout de suite notre attention, n'est-ce pas ? Tout de suite notre attention. C'est un verset, ce verset est un rappel de ce qu'il avait déjà dit dans le chapitre 6, verset 15, où il ne laisse aucun doute sur la nécessité absolue du pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair, n'est-ce pas ? C'est clair. Nous pardonnons, en fait, aussi pour que Dieu nous pardonne. Pour que Dieu nous pardonne. Ce fait est tellement important aux yeux du Seigneur qu'il inscrit dans le Notre Père, cette prière que Jésus a appris aux disciples, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je pense qu'on devait prier cette prière plus souvent dans nos églises, n'est-ce pas ? Cette prière peut-être nous aider à mieux réfléchir à nos relations les uns avec les autres. « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » À moins d'accorder le pardon à l'occasion des offenses, qu'elles soient petites ou grandes, n'est-ce pas, commises contre nous, nous ne pouvons guère être sûrs nous-mêmes que nous avons reçu le pardon de Dieu. En tout cas, on se montre indigne de son pardon et on refuse de vivre cette relation de pardon à notre tour, n'est-ce pas ? Dieu nous a pardonné, nous pardonnons. Un homme impitoyable comme celui-ci, cette parabole, ne peut prétendre au pardon de Dieu. Ne peut prétendre au pardon de Dieu. Ne pas être pardonné ne signifie pas ici ne pas être sauvé, je ne le pense pas, mais être privé de la communion avec le Père. D'être privé de la puissance spirituelle dont nous avons tant besoin, n'est-ce pas, pour vivre notre vie chrétienne ici-bas. Et j'associe cette affirmation de la Bible à beaucoup d'autres liées au salut, certaines réalités nécessaires à notre salut, comme la persévérance, comme la sanctification, comme la confession de nos péchés devant les hommes, comme la nécessité de demeurer dans la foi, de ne pas pratiquer le mal. Beaucoup de choses liées à notre salut, beaucoup d'exigences, mais qui sont nécessaires aussi, qui sont nécessaires. Nous pardonnons donc pour demeurer en communion avec notre Père céleste et continuer à jouir de ses bénédictions. Voilà la grande leçon de cette parabole. Le Seigneur nous appelle à nous pardonner, à pardonner nos semblables comme nous avons été pardonnés par lui. Je pardonne aux autres comme moi-même j'ai été pardonné en Jésus-Christ. Le pardon, selon Jésus, est une pièce finalement qui a deux faces. D'un côté, il y a le pardon de Dieu. De l'autre côté, le pardon que nous devons, n'est-ce pas, donner aux autres, le pardon réciproque. Et il nous est impossible de dissocier les deux. Qu'allons-nous faire ? Imiter Dieu ou imiter ce serviteur impitoyable ? Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à mettre en pratique son enseignement, même s'il est difficile, il est nécessaire. C'est pour notre bien à tous. Que le Seigneur bénisse sa parole.